commence avec vous et des origines de la vie, donc une étude qui nous permet aussi de répondre à la question qui était le premier, l'œuf ou la poule.
Exactement, Charlotte. En fait, ça a été publié dans la revue Nature ce 6 novembre 2024. C'est un groupe de 5 chercheurs et la première auteure est Marine Olivetta qui travaille à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne et à l'Université de Genève. Elle a un doctorat en biologie. Et ce qui intéresse évidemment au plus haut point les biologistes, c'est comment la vie s'est développée sur Terre, puisqu'on sait que depuis des milliards d'années, la vie existe sur Terre. Et surtout une question fondamentale aussi, comment est-ce qu'on peut passer d'un être unicellulaire, une seule cellule, à quelque chose de pluricellulaire, c'est-à-dire qui va petit à petit s'approcher de ce qu'on va appeler plus tard un animal, une plante, etc. Surtout avec cette question de comment une seule cellule peut se diviser, ça on sait, mais peut se différencier, c'est-à-dire avoir d'autres caractéristiques après s'être séparé en deux.
Oui, pas faire 15 fois la même cellule, mais d'autres choses à partir de elle-même.
Exactement.
Ce qui est quand même un peu fou.
Oui, et c'est un problème relativement très important. Et donc, ce qu'ils ont fait, eux, c'est qu'ils ont travaillé sur un être unicellulaire qui a été découvert en 2017 par Frank Perkins dans les sédiments d'Hawaï et dont on sait qu'il vit depuis plus d'un milliard d'années sur Terre. Et ce petit être unicellulaire porte le doux nom de Chromosphera Perkinsii. Bref, c'est très compliqué. Mais ce qu'ils ont mis, eux, au point, c'est une technique qui permet de visualiser dans le temps, donc des images vidéo, le développement de cette cellule. Comment elle se divise et si oui ou non, elle se différencie. Et pour ça, ils ont aussi mis au point une technique pour aller systématiquement mesurer comment le patrimoine génétique s'exprime. C'est-à-dire qu'ils vont mesurer ce qu'on appelle les ARN messagers pour voir quel est le gène qui est en train de s'exprimer dans cette cellule. Et ils ont pu publier, et la vidéo est en ligne, on peut le voir, que cette petite cellule unicellulaire est capable, dans le temps, après à peu près 60 heures de macération et de division, tout à coup de commencer à former un être multicellulaire. C'est-à-dire que ces cellules uniques se regroupent entre elles et commencent à former un être multicellulaire, à peu près de 500 cellules regroupées ensemble. Pire que ça, ou mieux que ça, ils ont montré qu'il y a une différenciation systématique et que 15% de ces êtres multicellulaires fabriquent un flagelle, c'est-à-dire une petite structure qui permet à ces cellules de se déplacer cette fois-ci. Et lorsque la maturation est arrivée, après une 90 heures, eh bien de nouveau, ça se redivise et ça redevient des êtres unicellulaires. Ils ont pu montrer aussi qu'après un certain temps, de l'ordre de aussi une trentaine d'heures, le mécanisme chimique change. Ils vont commencer à fabriquer des graisses, à utiliser des sucres, des polysaccharides, et puis après un certain temps, là aussi à peu près une trentaine d'heures après, ils commencent à fabriquer toute une série de structures de protéines. Et donc ils montrent bien qu'il y a bien une différenciation cellulaire qui s'installe par des messages chimiques qu'on ne connaît encore pas très bien, mais qu'on sait exister entre les cellules elles-mêmes et avec le milieu. Et c'est pour ça qu'on a parlé de la question de l'œuf et de la poule, c'est qu'ils montrent que c'est exactement le même mécanisme que la maturation de l'ovocyte chez la femme, qui va devenir, par évolution, un ovule. Et donc, il montre ainsi qu'on a bien la possibilité de passer d'un être unicellulaire à un être pluricellulaire différencié, c'est-à-dire où certaines parties font autre chose que d'autres parties.
Et donc ça, jusqu'ici, on s'en doutait, mais on ne l'avait jamais observé. C'est ça la nouveauté.
On s'en doute évidemment. Là, la technique, c'est qu'ils ont pu mettre une technique visuelle au point qui contient à la fois la mesure visuelle, parce que c'est quand même des êtres microscopiques, hein. On est de l'ordre du millième de millimètre, et on peut mesurer ça dans le temps avec des techniques visuelles. C'est pour ça qu'ils travaillent aussi en collaboration avec des polytechniciens pour pouvoir, par exemple, compter le nombre de noyaux et en même temps faire une analyse chimique, tout ça pendant que ça vit. Donc c'est évidemment... du point de vue laboratoire, un exercice extrêmement complexe.
Est-ce que ça veut dire, Pasquale, qu'on a fabriqué aussi des chimères en laboratoire? Parce que vous êtes en train de dire qu'on a pris un être unicellulaire, et puis on a regardé, et puis on a vu que ça se différenciait, que ça commençait à faire d'autres choses. Mmh. Et ces autres choses-là, dans la vraie vie, elles n'auraient pas existé. Est-ce qu'on a, du coup, fabriqué un petit truc?
Non, ça se produit de façon naturelle.
Ah, okay.
La seule chose, c'est qu'évidemment, si on comprend bien tous ces mécanismes, eh bien, l'être humain va être capable, en laboratoire, de créer peut-être lui-même les différents messages, pour différencier fixer ces cellules. Et donc, comprendre tous ces mécanismes permettra de savoir comment est-ce qu'on est passé d'un être unicellulaire à un être pluricellulaire, tout ça avec le même code génétique. Toutes vos cellules, Charlotte, ont le même code génétique, mais il y a une différenciation. Certaines cellules deviennent de la peau, d'autres de l'os, d'autres des cellules de foie. Et ces mécanismes-là, eh bien, on voit que c'est ceux qui apparaissent dans la différenciation de l'ovocyte, et donc l'œuf arrive bien avant la poule.
Excellente conclusion.